CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des frontières numériques, des très grandes oreilles, des marchés publics et des routeurs américains et chinois. L'équipe aujourd'hui, Solarus, Gaël et Dascritch. Notre interviewé est Laurent Bacca, PDG de FullSave. J'espère que tout le monde aura mis son portable sur silencieux. Ok, alors c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour Gaël, comment vas-tu? Ça faisait un bail.
Très bien, et toi?
Eh ben écoute, magnifique. Bonjour Solarus.
Salut.
Et sincère félicitations, donc maintenant c'est
merci.
Officiel. On y prépare une release lui aussi. C'est une collaboration, je crois savoir. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, à toi dont la citoyenneté sera remise en cause. Parce que tu préfères Gmail à notre webmail national de la Poste.net, hein, je te vois. Alors qu'on a payé très cher la reconversion quand même des facteurs en développeurs et en ingé système. Aujourd'hui, nous allons te parler de cloud. De cloud souverain. Avec le ridicule d'un mot anglais pour ne pas souffrir de sa risible traduction nuagique. Et souverain, ben, parce que sa conception vient du fait du prince qui a géré avec une légèreté toute royale les caisses nationales sans qu'un cardinal ne vienne le sermonner sur les dites dispendieuses dépenses. Tel que le web fut imaginé au départ, dans une optique décentralisée, le cloud ne devrait pas exister. Si effectivement des services, notamment la gestion de noms de domaine ou les boîtes d'email, sont conçus dans l'idée de serveurs desservant des milliers d'utilisateurs, le premier navigateur web, celui codé par Tim Berners-Lee, permettait à tout un chacun d'éditer n'importe quelle page web et d'en héberger le contenu modifié sur son ordinateur. Mais très rapidement, on est revenu à des notions de serveurs forts, centralisés, douillettement planqués dans des bâtiments climatisés avec redondance de liaisons spécialisées et de lignes électriques. Oui, le mot cloud qui étant à la mode depuis 2006 ne fait que désigner un concept qui est vieux comme les centres serveurs et les très grands ordinateurs omniscients si chers au roman d'Isaac Asimov. Ah ben voilà qui ne nous rajeunit pas. Seulement, sur la plupart des centres serveurs et des services associés que nous utilisons au quotidien, la très grande majorité sont de nationalité américaine. Par exemple, il y a Amazon Web Services pour l'hébergement professionnel, Google Drive pour les suites bureautiques et Facebook pour les réseaux sociaux. Oui, les services Internet posent une question qui est politiquement fondamentale, celle de la souveraineté, de la portée d'une législation nationale, du contrôle des données par les citoyens et des garde-fous juridiques. Or, bizarrement, enfant du futur immédiat, ce n'est pas parce que tes données sont hébergées dans ton pays que tu es plus libre. Prends exemple sur Johnny Hallyday, Jérôme Cahuzac, Yannick Noah et Florent Pagny. Leur domicile fiscal n'est bien évidemment pas en France car...
Mais vous n'aurez pas la liberté de penser.
Et d'ailleurs, une chose qu'on oublie de reprocher aux fameux GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, oui, on a créé une abréviation pour mieux stigmatiser leur complot mondial. C'est le premier amendement à la Constitution américaine, celui qui garantit la liberté d'expression. Un texte fondamental qui fait que pour supprimer des données publiques, l'expression d'une personne, il faut faire intervenir un juge. Sache qu'en France, un tel droit n'a jamais été inscrit dans notre Constitution. Alors, pour s'empresser de nous retirer les droits fondamentaux, alors là, il y a du monde au Parlement. Comment ça, je suis aigri de l'extension de l'état d'urgence? À peine.
Une formalité.
Enfin, bien sûr. Derrière le cloud souverain, il n'y a pas que ce vieux fond d'anti-américanisme cocardier. Il y a aussi la question de la dépendance à des entreprises étrangères de services importants, voire vitaux pour la nation. Ouais, qui dit étranger dit anti-France et aussi la peur de l'espionnage. Hein. Après tout, Edward Snowden n'a fait que dévoiler au grand public un secret de polichinelle.
les grandes oreilles américaines de la NSA piochent allègrement dans le contenu des services hébergés chez eux pour mettre tout le monde sur écoute. Oui, les GAFAM sont méchants parce qu'ils sont américains.
Ouais, comme si en France, on n'avait pas la loi renseignement et CCID.
Comme si les services de renseignement ne se partageaient pas déjà allègrement entre copains tout ce qu'ils récoltent massivement chacun de leur côté. Bref, argument nul et non avenu. Alors, promouvoir un cloud souverain, est-ce une manière de créer quelques emplois localement? Je dirais bien oui, mais en réalité, vraiment que quelques. Un data center, une fois construit, ne requiert pas plus d'une dizaine de salariés. Mais il est vrai que, par exemple, Facebook a son premier data center non américain en Suède, 2 sont prévus par Apple en Europe, Microsoft en prévoit 3, et il est question d'un troisième centre européen pour Amazon Web Services, après l'Irlande et l'Allemagne. En fait, le problème levé par des prestataires extérieurs à nos frontières est l'impossibilité pour nos acteurs nationaux industriellement lourdingues de répondre aussi bien commercialement qu'en efficacité. Je ne parle pas d'OVH, Chicoula, Gandhi ou notre invité FullSave. Je parle de nos glorieuses nationales de S2I, ESN, comme Bull, Atos et Capgemini. Orange SFR aussi, hein, par la même occasion. Eux qui, eux-mêmes, s'affranchissent des standards auxquels sont conformes les mieux-disants qu'eux, mais étrangers au jeu de place plat entre fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui pantouflent chez les 10 champions du CAC 40, ce qui récolte un nombre record de commandes publiques et que certains soupçonnent de dopage. Reparlons ainsi du gars cuisant arrivé en juin 2013, à midi, comme par hasard, dans le data center de Bull qui hébergeait le service Chorus. Alors Chorus, c'est le logiciel comptable de l'État. Figurez-vous que le ministère du budget ne pouvait plus effectuer une seule opération bancaire pendant une semaine. L'État n'était plus capable d'effectuer le moindre virement ou encaissement. Bercy était à sec. Le serveur Chorus était tombé pour une histoire de coup de perceuse. Ouais, des particules fines comme ça qui sont allées déclencher l'alarme incendie, parce qu'évidemment c'est le même alarme incendie entre les bureaux et la partie serveur. Bah tiens, officieusement, une alarme incendie d'un bureau s'était déclenchée suite à un barbecue sur le parking. Heureusement pour Bull que, vu la criticité du système, il y avait obligation de tenir une machine à plus de 300 km avec les données copiées en permanence. Ce serveur de secours était installé exactement en dessous du serveur principal, noyé lui aussi sous les sprinklers. Belle douche froide pour la réputation de notre glorieuse cloud souverain, et pourtant on n'avait pas encore vu les non-preuves de CloudWatt et Numergy, eux aussi bien coulés. Comment peut-on justifier qu'en payant plus cher avec des sous-traitants de bien moins de qualité, on gagne en souveraineté numérique? Surtout qu'au final, les 10 prestataires utilisent rarement du matériel français, mais plutôt d'importation américaine ou chinoise. Le processeur vient de chez Intel, le routeur vient de chez Cisco. Et les 10 opérateurs finissent par installer des logiciels aussi opaques que ceux de leurs concurrents non français. Et comme ils n'arrivent pas à les faire tourner, les frais de maintenance dérapent plus sérieusement que les coûts du porte-avions Charles de Gaulle. Pauvre France, pauvre French Tech. L'étape suivante sera l'OS souverain. Mais comme nos visages sont rougis présentement à force de se mettre des claques de rire, nous gardons un peu de notre mauvaise foi pour une prochaine fois. Enfant du futur immédiat, au lieu de se plaindre que les pays étrangers menacent par leur savoir-faire notre indépendance, je vais te rappeler ce truisme. L'innovation ne se décide jamais par une décision bureaucratique. Or, les faits ministériels qui ont présidé à la naissance du cloud souverain ont vite fait d'aller voir ailleurs avant la première nuit. Jacques Dutronc, les gars de la, de la marine, excusez-moi, extrait de l'album CQF Dutronc. En 1987, et ça te fait rire en plus. Solarus, non mais t'as pas honte. Heureusement, Gaël est sérieux.
Oui, oui, oui.
Il est arrivé avec plein de questions.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point vocabulaire sur les trois nuances du cloud. J'ai nommé le PaaS, le IaaS et le SaaS. Mon monde Ascrich, qu'est-ce que c'est que le PaaS ?
Alors, le PaaS, c'est ce que l'on appelle plateforme as a service. C'est vraiment, dans ce cas-là, on vous sert vraiment un serveur prêt à être démarré, mais c'est à vous à installer les logiciels qui sont dessus pour, par exemple, faire principalement mettre un serveur de données, mettre, par exemple, vos musiques ou faire un proxy, je ne sais quoi, ou même un serveur web, tout simplement, que ça soit, par exemple, le serveur par lequel vous écoutez actuellement la radio ou ce genre de choses. En général, les clients, ça peut être des entreprises, des associations, des grands groupes, des administrations et de particuliers particulièrement bien outillés.
Qu'est-ce que le IaaS ?
Alors, le IaaS, c'est l'étape au-dessus du PaaS, c'est-à-dire qu'on va installer dessus en fait une brique logicielle qui permet de construire d'autres services logiciels dessus. En général, c'est assez restreint. Par exemple, Amazon RDS est un exemple de IaaS, c'est-à-dire en fait c'est un serveur, une base de données qui est prête, mais sur lequel vous ne pourrez vous en servir directement sans construire quelque chose dessus. En général, ceux qui s'en servent, ce sont plutôt des grandes entreprises, des moyennes entreprises et en fait de grandes associations et administrations.
Les mêmes clients en fait.
Non, parce que là, le particulier, il ne va pas franchement servir du IaaS.
Et par contre, il va servir du SaaS.
Alors, le SaaS, en fait, on s'en sert tous. Le SaaS, c'est Service As... pardon. c'est vraiment du service pur dans lequel on n'a plus qu'à s'inscrire et à utiliser. Par exemple, Gmail, Facebook, Google quand vous tapez sur le moteur de recherche ou Google Drive quand vous allez, par exemple, vous servir d'une suite bureautique ou la nouvelle solution de Microsoft Outlook sur le net. C'est vraiment ça, c'est du ça. C'est-à-dire, en fait, vous n'avez plus rien à paramétrer ou alors peu et en fait, vous en servez directement.
Ben merci pour ces petites précisions sur le vocabulaire privilégié du cloud. Nous, du coup, on va parler du cloud souverain aujourd'hui, vous l'avez bien compris, chers auditeurs. Pour ça, il fallait aussi laisser parler un opérateur local de data center, de centre de données, pardon, un qui n'a pas forcément d'implémentation hors frontières, un qui doit répondre aux offres de marché public, et surtout un qui était présent avant que le mot cloud commence à devenir un enjeu politique dans l'exécutif national. Un opérateur de centre de données qui est aussi un opérateur télécom et FAI pour les professionnels, le tout à Toulouse. Nous sommes donc allés interviewer Laurent Bacca, président de FullSave, architecte logiciel, soutien du Capitole du Libre, il faut le préciser, et accessoirement voisin du serveur de CPU.pm.
CPU, carré et petit utile.
Donc depuis 2004, FullSave, vous êtes spécialiste dans le data center. Globalement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ?
D'accord, donc un data center, c'est un bâtiment sécurisé, très résilient à n'importe quel type de panne qui puisse arriver, très sécurisé, dans lequel on va pouvoir héberger de nombreux serveurs informatiques et aussi, on y pense moins, mais de nombreux équipements télécom.
Et qui sont les clients de cette infrastructure ?
Alors, tout type de structure d'entreprise peut être intéressé pour ce type de service, de la TPE au grand compte, et évidemment aussi, puisque j'en parlais tout à l'heure, tous les opérateurs télécom sont clients des data centers parce que leurs infrastructures sont hébergées, sont centralisées dans ce type de data center. D'accord.
Donc les données principal que vous hébergez, c'est du professionnel, moins du grand public. Est-ce que il y a un changement de ce point de vue-là ? Est-ce que plus de gens utilisent les data centers et ton data center ?
Alors effectivement, la tendance est en train de bouger. Donc nous, on est vraiment très focus sur les entreprises. Certains de nos clients vont travailler avec le grand public. Indirectement, on va héberger des services grand public, mais on n'a pas de service direct sur le grand public. Mais aujourd'hui, effectivement, le cloud se développe de plus en plus sur le grand public. tous les Google, les Amazon sont sur des offres cloud grand public. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, très facilement avoir des offres de stockage pour vos photos de vacances sur le cloud, donc dans des data centers comme les nôtres, pas le nôtre, mais c'est tout à fait aujourd'hui, c'est vraiment en vogue et ça se déploie très fortement.
Alors aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est le projet Andromède et donc cette histoire de cloud souverain qui est lancée en 2009 par le gouvernement Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc c'était un projet de construction d'un grand centre d'hébergement de données informatiques. Comment, en 2009, du coup, ça fait 5 ans que vous êtes dans le métier, comment s'est perçue cette volonté, cette ambition de créer un cloud souverain, un cloud français en tout cas?
Il y a deux parties. L'idée, à la base, elle est plutôt intéressante. Si on se replace dans le contexte, en 2009, c'est les affaires Snowden. Enfin, on fait semblant de découvrir que les États-Unis espionnent un peu tout le monde. Donc, pourquoi pas? Ensuite, c'est le début de l'explosion du numérique. Donc, il faut agir. On sort d'une crise économique. Donc, relancer des investissements, à mon avis, sur le principe, c'est une bonne idée. C'est plutôt dans la manière que c'est mis en place que, dans notre métier, on a été très surpris parce que on a utilisé directement des grandes structures alors que peut-être qu'il existait des acteurs en place qui auraient été peut-être plus pertinentes et plus en mesure d'adresser ce cloud souverain. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été choisi. On est passé par des grosses structures qui ont peut-être été un peu lentes à mettre en marche ces services.
Parce que justement, en 2009, vous existez, vous êtes ici à Toulouse. Quelle est la situation? Combien il y a d'entreprises françaises spécialisées dans le cloud, en fait?
Il y en a déjà beaucoup, hein. Il y en a déjà beaucoup. Nous, à l'époque, on communique déjà sur le cloud régional. Donc, comme quoi, c'est déjà quelque chose qui est bien en place. Alors, l'État le découvre un petit peu plus en retard, peut-être. Mais aujourd'hui, enfin, en 2009, vous avez déjà des dizaines de boîtes qui sont déjà sur le cloud, dont une demi-douzaine qui sont déjà très connues et déjà, je dirais, un petit peu en tête de filière sur ces technos-là. Alors, on connaît tous OVH aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui auraient pu. Donc, on a des boîtes comme Gandhi, comme Ikula, qui sont déjà en place, qui communiquent déjà fortement sur le cloud et qui sont déjà positionnées à l'international.
Comment, dans ce cas-là, s'opère le choix de l'opérateur de secteur qui va mener à bien ce projet gouvernemental? Comment c'est vu de l'intérieur, en tout cas?
C'est un appel d'offres public. On sait que généralement, les appels d'offres publics, il y a peu de sociétés qui sont pertinentes pour y répondre, pour les gagner. Et comme par hasard, là, c'est effectivement celles-là qui ont été mises en avant. Et encore une fois, je pense que les structures en place, qui étaient vues comme plus petites, donc moins pertinentes, n'ont pas eu droit au chapitre.
Donc c'est quelle entreprise, pour les citer, pour les auditeurs?
C'est Orange, c'est Thales, c'est SFR, c'est Bull. C'est ces sociétés-là qui ont gagné cet appel d'offres-là.
Et donc l'idée, c'était quoi? C'était créer un grand data center, une grande entreprise. On verra par la suite que ce n'est pas trop ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'elle devait faire? Quel était le but? C'était vraiment d'avoir quelque chose de souverain, c'est-à-dire de ne pas dépendant des États-Unis? C'était globalement ça?
Oui, l'idée, c'était d'être autonome, de bénéficier de techno et de services et d'une grosse société qui soit capable de concurrencer les Amazon, les Google. Encore une fois, l'idée était intéressante, hein. C'est dans la manière que ça s'est pas réalisé. Déjà, donc tu en parles juste à l'instant, il n'y a pas eu une société, mais il y en a eu deux. Déjà, dès le départ, il n'y a pas eu entente sur le mode d'opératoire. Donc deux structures, Orange et SFR, qui se sont partagées la manne. À partir de là, je pense que déjà le verre était dans le fruit, peut-être.
Avant de revenir sur le sujet, juste je voudrais creuser cette question là. Pourquoi la localisation créer un centre de données en France, pourquoi c'est un argument de sécurité? Par exemple, alors que les équipementiers, par exemple ceux qui font le matériel, ils ne sont pas forcément français. Donc, est-ce que c'est utile vraiment de créer un centre ici? Est-ce que ça veut dire qu'on le contrôlera mieux?
Oh oui, Ça, c'est évident. On contrôlera mieux techniquement, on contrôlera mieux au niveau contractuel et au niveau juridique. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en détail, mais on sait que les Américains et les sociétés américaines...
Du coup, oui, juste dernière petite question avant de revenir sur l'épopée Andromède. En quoi offrir une localisation française, c'est un argument de sécurité pour les utilisateurs, les clients donc, de ces data centers?
C'est à la fois une question de sécurité technique, mais aussi contractuelle et juridique. On sait aujourd'hui que tout ce qui est hébergé par des sociétés américaines est susceptible d'être donné aux services secrets et donc indirectement aux entreprises américaines. Donc l'idée, c'est d'être autonome et de ne pas dépendre des États-Unis pour ce genre d'infra qui aujourd'hui sont absolument indispensables pour toutes les entreprises, pour tous les corps d'État. Il faut vraiment avoir la capacité d'être autonome sur ces technos-là. Et aujourd'hui, on nous dit que ces entreprises viennent faire de l'hébergement en Europe, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, c'est bien la société, le droit de société, la société mère qui compte. Donc, quand Amazon vient héberger des données en Europe, ça change rien à la problématique. Ces données sont légitimes pour être données aux services secrets américains. Donc, il faut vraiment être autonome de ce point de vue-là. C'est, à mon avis, une question vraiment importante pour la France et pour l'Europe.
Mais en dehors des entreprises françaises qui faisaient déjà ça, en Europe, je veux dire, en Allemagne peut-être, il n'y avait pas déjà beaucoup d'acteurs qui auraient pu faire des data centers européens, non pas que français ?
Si, bien sûr. On a des opérateurs qui, à cette époque-là, en 2009, existent dans de nombreux pays européens. Peut-être que la France est bien positionnée déjà à cette époque-là parce qu'on a la chance d'être sur des métiers qui consomment beaucoup d'énergie et où l'énergie est de très grande qualité en France. Donc la France est reconnue pour être un bon pays pour disposer d'infrastructures importantes.
Et juste si on peut dresser le tableau, en faisant un pourcentage, quelle est globalement la part des informations qui sont stockées ici en France ou en Europe? Alors là, tu fais une grosse moue que les auditeurs ne voient pas, mais qui révèle bien la réponse que tu vas me faire. Donc la part entre ce qui est stocké ici, ce qui est stocké à l'étranger, notamment aux États-Unis, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible d'estimer ça?
Alors c'est sûrement possible si on fait des études complexes. Après, je pense qu'il est important de différencier les données d'entreprise et les données du grand public. Je pense que si on parle des données du grand public, on se ferait peur. Je pense qu'une grande majorité est déjà aux États-Unis. Donc tous les profils utilisateurs, tout ça, c'est déjà aux États-Unis. Au niveau de l'entreprise, je pense que c'est un peu moins vrai. C'est peut-être en train de bouger, de se déplacer vers les États-Unis, mais je pense que le pourcentage est quand même beaucoup plus faible pour l'entreprise que pour le grand public.
11h25 sur Radio FMR, nous marquons une pause pub. CPU reprend juste après ça.
Vous avez toujours rêvé de sauvegarder automatiquement toutes vos données sans même avoir à vous en soucier. NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer. Nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques. Vos communications sans fil sont elles aussi intégralement conservées. La totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 data centers de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Prisme permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA Cloud Backup, souriez, vous êtes déjà abonné.
Fraser Chorus Cloud 8 Remix. Sorti en 91. À l'époque, il y avait une radio qui s'appelait Maximum. Non, vous êtes trop vieux. Vous êtes sur FMR, CPU, c'est carré, petit, utile. Et nous parlons du cloud souverain. Écoutez Radio FMR, nous reprenons de suite. Laurent Bacca, donc, qui nous interviewons, le président de FullSave, dans Carré Petit Utile.
Bon, retour à Andromède, donc c'est lancé en 2009, blablabla, c'est doté de 150 millions d'euros quand même. C'est piloté par Dassault Systèmes, mais qui ne s'entend pas du tout avec Orange SFR. Et du coup, Dassault s'en va, claque la porte. Donc l'État, un peu embêté, alors, je résume parce que ça a dû être bien plus complexe que ça. L'État décide donc de couper la poire en deux, 75 millions pour CloudWatt, 75 autres millions pour Numergy, qui sont donc deux sociétés qui vont devoir faire la même chose en concurrence. Face à ce choix un peu peut-être étonnant, comment les professionnels du secteur réagissent ?
On est assez dubitatif, on est un petit peu même aigri, je dirais, parce qu'on n'a pas du tout été consulté. On avait l'impression qu'on avait déjà des technos intéressantes et donc peut-être on a trop bon à dire. Et dans les faits, cet appel d'offres publiques, parce qu'il y a eu un appel d'offres publiques, hein, n'a pas du tout été ouvert aux acteurs en place. Il a été phagocyté par les entreprises nationales. C'est dommage, je pense que dès le début, en faisant le choix d'exclure l'écosystème déjà en place, c'était déjà peut-être le début d'un signe comme quoi c'était un projet voué à l'échec.
Tu dis échec parce que Orange et SFR ne s'y connaissaient pas du tout là-dedans, ou ils avaient déjà des projets, ils étaient déjà positionnés ?
Ils étaient déjà en place sur les offres de services d'hébergement. Je pense qu'ils n'avaient clairement pas les technologies du type OpenStack, par exemple, sans rentrer dans la technique. OpenStack, c'est une technologie qui permet d'industrialiser complètement la création de serveurs virtuels. Et à mon avis, clairement, il y avait du retard technologique sur ces grands opérateurs que d'autres acteurs avaient déjà, étaient déjà en avance sur ces technos-là. Et ça leur a permis de combler ce retard.
D'accord, donc c'est une manne d'État, 150 millions divisé par deux, qui leur a permis de revenir sur le devant de la scène au niveau du cloud.
Ce n'était pas l'objectif prioritaire peut-être, on va considérer que l'objectif était plutôt plus sain que ça, mais dans les faits, c'est ça qui s'est passé, effectivement. Je pense que ça a permis à ces deux opérateurs de recoller au train technologique. Après, est-ce que ça suffira pour eux pour avoir des offres de services pertinentes ? Ça, c'est une autre question.
Parce que du coup, ces deux entreprises sont créées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie à l'époque, en 2010-2011, quand elles lancent leurs services ?
Oui, ce qui les différencie, c'est de ne pas avoir une approche technique, technologique, mais marketing. C'est ça qui a été très nouveau. On se souvient tous des publicités de Teddy Riner pour CloudWatt. Malheureusement ou heureusement, l'offre de service, elle a la base technique, donc le côté marketing n'a pas suffi pour embarquer tout le business derrière.
C'est-à-dire qu'ils n'offraient pas ce qu'ils... ils n'avaient pas mis les moyens à la hauteur de leurs ambitions, ce qu'ils voulaient faire, donc, on le rappelle, un cloud français, le cloud français. Derrière, ça ne suivait pas du côté technique ?
Ça aurait fini par suivre, je pense. Sauf qu'ils ont peut-être commencé par le marketing en disant que la technique suivrait, alors que nous tous, venant de ce métier-là à la base, on est là avant tout très technique. Et le marketing est mis dans un deuxième temps. C'est une question de priorité. Je pense que ces projets-là, techniquement, ils étaient pertinents. Hein. Ils sont arrivés au bout de leur projet. Mais ce n'est pas ça qui était mis en avant. Dans l'offre de service, ce n'était pas la technique. Et du coup, ça a été un peu surprenant. Je pense que l'offre n'a pas trouvé son public parce qu'on est habitué à avoir quand même des approches très technologiques. Et ce n'était pas ce qui était mis en avant sur le sujet.
Et alors pourquoi tu parles d'échec? Pourquoi on parle d'échec? C'est pas juste un constat qu'on fait toi et moi, c'est quelque chose qui est assez partagé. Ces deux entreprises, 7 ans après, elles existent encore, même s'il y a eu des rachats d'actionnariat, etc. Donc, t'as Orange et Thales qui sont actionnaires et qui possèdent CloudWatt, SFR et Bull qui ont Numergy. Chaque structure, au début, elle était valorisée de 225 millions d'euros. Aujourd'hui, CloudWatt, en 2014, pardon, CloudWatt n'a généré que 2 millions d'euros de recettes et Numergy 6. Est-ce que du coup, c'est-à-dire elles ne sont pas cassées la figure non plus, elles existent toujours. Pourquoi on parle d'échec?
Alors, sur le niveau déjà actionnariat, Thales est sorti de CloudWatt. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est 100% Orange. Quel est, par rapport à l'esprit initial qui était d'avoir un projet multipartenaire, voilà, on se retrouve avec aujourd'hui Orange qui a récupéré tout CloudWatt. Numergy, je pense qu'ils sont passés par la case procédure de sauvegarde. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'actionnariat, mais à mon avis, SFR va récupérer ou a déjà récupéré l'intégralité de l'actionnariat. Après, le chiffre d'affaires, effectivement, il est là. Mais par rapport à, si on regarde ce qui était annoncé dans les business plans à l'origine, je pense qu'on parlait de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2016 ou 2017. Si on est à 2 aujourd'hui, on n'est pas tout à fait... Enfin, il va falloir mettre les bouchées doubles pour finir, quand même, je pense. Hein. Et après, je ne suis pas sûr non plus que le nombre d'emplois créés soit au rendez-vous. Après, on peut se poser la question, pourquoi l'État a investi tout cet argent si jamais l'offre international qu'on nous avait promis n'est pas là, et si jamais les emplois n'ont pas été créés. C'est peut-être ça qui explique l'échec relatif du projet.
Parce qu'aujourd'hui, du coup, ces deux entreprises ne sont absolument pas même numéro un du marché en France. Qui est du coup, quel est le marché actuellement qui possède, enfin, qui est en tête de gondole, si je puis dire?
Oh, ben, la tête de gondole aujourd'hui, si on exclut les sociétés américaines, hein, les Amazon, les Google et les Microsoft, c'est clairement OVH aujourd'hui. Je pense qu'OVH était déjà dans les starting blocks en 2009. Peut-être que c'était un petit peu trop tôt pour lui, mais aujourd'hui, c'est lui qui est en tête de gondole, pour reprendre ton expression, clairement.
Pourquoi d'ailleurs, à l'époque, OVH a complètement été mis de côté, ou pourquoi ne s'est-elle pas impliquée dans ce projet-là?
À mon avis, c'était un petit peu trop tôt. Je pense.
C'est-à-dire?
Ils n'étaient pas encore autant visibles qu'aujourd'hui. Je pense que si la même donne était faite aujourd'hui, ils seraient partie prenante du projet.
Et tu me disais tout à l'heure que ça avait un peu servi à les mettre en valeur, justement, cette histoire de cloud souverain, d'échec de cloud souverain.
C'est possible. C'est un avis comme un autre. Mais je pense qu'à un moment donné, ce projet-là ayant... De mon point de vue, ces projets ayant échoué, il fallait pour autant trouver une tête de gondole. Je pense qu'OVH était là pour récupérer ce poste-là. Aujourd'hui, ils sont clairement positionnés à l'international. Après, ils ne sont pas les seuls sur le marché, hein, évidemment. Et moi, je pense que de même qu'il est important d'avoir un cloud souverain, il est important d'avoir du cloud régional. Il le faut à tous les échelons de la chaîne. Et clairement... Il y a un vrai besoin d'accompagnement sur ces projets en région d'évangéliser le marché, d'aller accompagner les entreprises vers la migration vers le cloud. Et c'est vraiment ça qu'on fait aujourd'hui et qui est très pertinent, à mon avis, et très demandé par les entreprises.
Donc plutôt que faire une grosse structure souveraine, française, centralisée, comme on les aime bien, il faudrait privilégier des petites entre guillemets, solutions réparties partout sur le territoire, dans les DOM-TOM aussi, on ne les oublie pas. C'est ça la solution, ça serait ça le cloud souverain, une collection de structures, de data centers régionaux.
C'est clairement notre avis chez FullSave, et aujourd'hui le succès chez FullSave, je dirais, montre bien qu'il y a un marché pour cet accompagnement de proximité. Aujourd'hui, on est sur des croissances de 30% par an. Effectivement, tu parlais de DOM-TOM. On travaille en partenariat avec des sociétés de DOM-TOM qui sont effectivement aussi très demandeuses de cet accompagnement de proximité.
Et donc aujourd'hui, cette question de cloud souverain, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même intéressante, même si elle ne passe pas par CloudWatt et Numergy, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'on y approche ? Est-ce que entre 2009, où on était peut-être complètement dépendant des clouds américains, est-ce qu'aujourd'hui on en est moins dépendant parce que les acteurs français se sont développés ?
Je pense que l'offre est là, effectivement. Après, est-ce qu'on est moins dépendant ? Oui, sûrement. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, on s'est donné les moyens d'avoir une autonomie sur ces métiers-là. Mais ce n'est pas forcément l'impulsion de l'État qui a suffi. C'est quoi. Voilà, le terreau, le contexte était déjà favorable à l'époque et on a réussi à créer cet écosystème-là sans ces fameux 150 millions d'euros qui ont été donnés à d'autres structures.
Alors, ils n'ont pas tout complètement été donnés, hein. Les enveloppes n'ont pas été vidées, c'est à peu près la moitié qui a été dépensée. Est-ce qu'il y aurait du coup encore du soutien à apporter donc à d'autres acteurs que les deux qu'on a déjà cités ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour développer les data centers et les clouds français, en fait ?
Oui, clairement, le combat n'est jamais gagné, hein. C'est une vraie guerre économique, les enjeux sont vraiment très très importants. Donc oui, il y a des choses à faire. On peut passer par des réflexions sur les appels d'offres publiques. On peut passer sur de l'accompagnement, le développement de nouvelles technologies. Aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup d'aide à l'innovation. Je pense que l'enjeu, il est là. Et je pense que l'État, pour le coup, aujourd'hui, est visible sur cet accompagnement-là. Après, il faut que ça soit dans la durée. Il faut que ça continue, il faut que ça soit bien géré. On va dire que ça va marcher.
Mais il y a des projets en cours, je veux dire, des nouveaux projets Andromède qui arrivent à l'horizon ou pas du tout ?
Non, en tout cas, pas que je sache. Par contre, on entend beaucoup les services de l'État aujourd'hui essayer de dynamiser l'écosystème, tout ce qui est autour de l'innovation. On favorise l'investissement dans les startups. Donc je pense que ça passe aussi par là, dans ces aides indirectes. Je pense qu'il y a l'enjeu, il est là. Il est dans l'idée d'aider les startups et les sociétés en cours d'envol à avoir une piste de décollage qui soit claire et qui puisse permettre de faire le business tranquillement, quoi.
Et dernière question, et puis après on arrêtera, c'est une question un peu plus ouverte au niveau européen. Est-ce qu'il y a une réflexion pour mettre en commun ou bien créer des structures européennes, à défaut d'être françaises, allemandes, et en tout cas pour être autonome au niveau continental ? Encore une moue de Laurent Bacca.
Ouais, je pense que, en tout cas, j'en ai pas connaissance, et je pense que l'air du temps n'est pas à ce genre d'ouverture à l'international. De cohabitation internationale. Aujourd'hui, on est quand même plutôt tendance à favoriser le franco-français et on va faire avec et ça va être très bien comme ça.
C'est une super interview de Laurent Bacca. Merci Gaël.
Blue room. is clean, skin is clear. I've had enough of hanging around here. It's a different kind of conversation.
Pendant que notre professeur fait donc une leçon de nouvelle orthographe, je peux désannoncer le morceau The Passenger, Your Blue Room. The Passenger alias U2. Et oui, c'est Bono derrière. Pas tout seul d'ailleurs. L'album s'appelait Original Soundtracks 1. Et là, c'est la bande originale du film Par-delà les nuages, co-réalisé par Michelangelo Antonioni et Wim Wenders en 1995 avec John Malkovich, Sophie Marceau, Vincent Perez, Irene Jacob et Jean Reno. Non, il y a du quota franco là-dedans. Ah, oh, mince, encore une fois. Bon, le prof, on se met en place un peu ?
Oui, un peu de silence dans la salle. Là.
Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez amené votre rédaction de la semaine prochaine, de la semaine dernière, hein. Je ramasse les copies. Nous avons... Hein ? Oui, on verra ça. Nous en avons déjà parlé dans un précédent cours, Internet avait été conçu comme un réseau mondial. Peu importe la localisation d'une ressource, elle était disponible à travers une URI. Et dans URI, il y a universel. Le cloud arriva au milieu des années 2000 avec cette promesse fabuleuse. Vos données disponibles partout, répliquées à plusieurs endroits. Ainsi, en cas d'attaque nucléaire sur Amsterdam ou d'invasion de chars russes sur les Champs-Élysées, vos données pouvaient rester disponibles depuis les États-Unis ou la Chine, mais qui serait pour le coup le complice des chars russes. La promesse fut rapidement volée face aux coûts de maintenance et de synchronisation en temps réel de plusieurs VM dans le monde, laissant Amazon ou Google le luxe d'une telle architecture. Face à la mondialisation des réseaux de données, et profitant des promesses envolées du cloud, nos élites ont réagi et ont réaffirmé leur souveraineté sur les réseaux internationaux, et notamment ce fameux cloud. Ainsi, dans la lignée du plan calcul et des quotas de diffusion francophone, le gouvernement de l'époque imposa le cloud souverain. L'idée était simple, lumineuse. En stockant les données sur le territoire national, on pouvait y appliquer sa propre législation. Bon, en oubliant que les États-Unis appliquaient leur législation à tous les serveurs dans le monde de sociétés américaines, le fameux Patriot Act. Mais on pouvait aussi et surtout protéger les VM, les machines virtuelles, des méchants pirates russes, en utilisant notre armée de cyberdéfense. Ainsi, des lois furent votées pour éviter toutes les catastrophes, incluant des cyberguerres qui, comme chacun le sait, font des cybermorts. Et comme le disait Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues, qu'on tempère comme on voudra la souveraineté dans un État, nulle loi n'est capable d'empêcher un tyran d'abuser de l'autorité de son emploi. Hein, quoi ? Pardon, oubliez ça, je vais avoir des ennuis. Où en étais-je ? Comme au début de chaque catastrophe, on trouve à la base une bonne idée. À l'origine, il s'agissait de stocker sur le territoire national les données de santé. Ainsi, il s'agissait d'éviter que des sociétés américaines viennent espionner nos alcooliques souverains biberonnés au quart de rouge et au pastis. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là et imposèrent également d'héberger les blogs sur le cloud souverain afin de faciliter le dépôt légal des blogs par les archives de la BNF. Oh, bien sûr, certains articles de blogs disparaissaient aussi rapidement qu'un reportage d'investigation de Canal+ à propos du Crédit Mutuel. Puis ce fut le tour des boîtes mail d'être hébergés sur le cloud souverain, les ministres et les députés jurant la main sur le cœur que la confidentialité des emails serait respectée. Sauf en cas de terrorisme, sauf en cas de fraude fiscale, sauf. Le fait pour une société étrangère de détenir une donnée souveraine était sévèrement puni, d'une peine pouvant aller jusqu'au blocage administratif du site depuis notre chère patrie. Et petit à petit, l'État et le cloud souverain devinrent les seuls prestataires du stockage cloud, et en interdisant ainsi la copie des données, devint le seul propriétaire de ces données. En effet, comme le disait le grand penseur Benjamin Bayard, celui qui possède la donnée, c'est celui qui a le pouvoir de la détruire. Et pendant ce temps, un petit village d'irréductibles gaulois résistait encore et toujours au cloud souverain en s'hébergeant. Car comme disait Victor Hugo, au point de vue politique, il n'y a qu'un seul principe, la souveraineté de l'homme sur lui-même.
Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Ici tout n'est que rire et que chanson. La joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes pas tôt, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout, n'oublie pas que dans les nuages, il y a ton village. Nous tournerons tout autour de la terre. Nous oublierons qu'il y a des frontières. Nous convaincrons tous les enfants du monde qu'il y a pour eux un pays bleu. Ce monde à part peut effacer tes peines si tu y crois. Le temps de vivre un rêve, ce sera l'heure du vrai bonheur au fond du cœur. Ici tout n'est que rire et que chanson. La joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes pas tôt, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout, n'oublie pas que dans les nuages, il y a ton village.
Et Dominique Poulain qui interprète le générique d'une émission pour enfants à l'époque où la première chaîne n'était pas encore privatisée, c'était entre 82 et 85. Et ça, enfin bon, vous avez compris que ça faisait déjà la pub pour les centres serveurs de chez Thomson. Mais nous revenons de suite aux deux Thermidor, excusez-moi, en deux.
La météo d'Internet.
Paix, fraternité, citoyen Fouquier Tinville.
Paix et fraternité, faut vite le dire. Das Kritsch, n'est-ce pas un patronyme de ci-devant, comme Dubosc ou Depardieu ?
Pas franchement. Je voulais vous entretenir du cloud souverain.
Souverain ? Il faut le guillotiner, comme Bourbet, comme Bourbon.
Ouais, c'est un peu court, hein.
Ça n'est pas assez, tout ce qui est souverain sans le privilège, le détournement de l'or de l'État, la dilapidation des assignats publics, le vol des richesses du peuple. Qu'a-t-il fait ce Claude pour mériter sa souveraineté? S'est-il contenté de naître et d'avoir des parrains fortunés et corrompus?
Bon, pas Claude, Cloud. Et pour les parrains, bon, c'est vous qui le dites.
Hein. C'est idem. La Nouvelle République ne parle qu'une seule langue fraternelle, le français. Fini les noms étrangers, ci-devant de Christ.
Da Skritch, avec un da.
Russe, à la solde des tyrans de la coalition.
Non, que nenni, toulousain de naissance. Bon, et le souverain?
Pas le temps de m'en occuper, citoyen, je te charge de le pendre. De cette manière, il sera attaché à ta corde et tu pourras le tirer plus bas que terre pendant qu'il fera le compte de ses fautes passées. Car celui qui énumère J, pas de favoritisme, même traitement que le clergé, ne craint ni le diable, ni le pape, ni ses bulles. En l'éliminant, je te parie ton poids en assignat que dans moins d'un an, son nom sera même oublié. Le Claude Watt, diront les immigrés de Londres.
Pourtant, au comité de salut public, il semble que l'idée fasse école. Il parle d'un système d'exploitation souverain et...
Certainement pas en bien, j'espère. Tout ce qui est souverain relève effectivement d'un système d'exploitation de l'homme par l'homme. Tiens, faudra que je la ressorte, celle-là. Son élimination n'est que le prologue à une ère nouvelle. Du passé, faisons table rase. Celle-là aussi, faudra que je la retienne. Système d'exploitation souverain? Les privilégiés nous prennent pour des idiots ou quoi? Faudrait pas voir à confondre l'intelligente largesse de l'État et les deniers de l'inculte. Pas un liard pour que ça soit fait des prébendes.
Et puis, il y avait encore cette histoire de chiffres souverains, de moyens de communication souverains, de systèmes de levage souverains.
Tu n'as que le mot souverain à la bouche, ma parole, citoyen Sapritch. On en a découpé pour moins que ça. Mais bon, c'est mon jour de bonté. Le grand chiffre du ci-devant Bourbon a été archivé, il finira comme son propriétaire. Il ne mérite pas l'attention des savants mathématiciens de la République. Enfin, ce qui reste, car on en a réduit un nombre important. Quant à son usage, la plupart des bourgeois, des citoyens du pays ont recours aux pratiques du Nouveau Monde. C'est la clé RSA, comme restons sûrs aux Amériques. Qui donc voudrait d'un procédé qu'on penserait d'ailleurs subverti par les espions de la Convention? Certainement pas les mahométans du Grand Turc, les brigands cosaques ou les chouans. Va, citoyen, j'ai d'autres têtes à couper aujourd'hui.
Pas mal. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Solarus, président Cocoricardier général, Gaël Cérès, président Patriote général, Daskritch, président Chauvin général, Marc Ollanier, président Franchouillard général. La release a été shippée, pardon, la distribution a été effectuée avec les moyens techniques de Radio FMR. Pour toute contestation, voir le tribunal du CSA. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sonores sont disponibles sur le site internet cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Prochaine release, le chat. Non, pas le félin, la messagerie instantanée. Hein. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Ciao, bye bye.